إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي في الله والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فما زلنا نقرأ كتاب وصول في التفسير للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى وقد وصلنا بحمد الله سبحانه وتعالى إن شاء الله إلى باب الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه فقال المؤلف الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى لو كان القرآن كله محكما لا فاتت الحكمة من الاختبار به تصديقا وعملا لظهور معناه وعدم المجال لتحريفه والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ولو كان كله متشابها لفاتت كونه بيانا وهدى للناس ولما أمكن العمل به و بناء العقيدة السليمة عليه ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات يرجع إليهن عند التشابه وأخر متشابهات امتحانا للعباد ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى وما كان من عند الله فهو حق ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض لقوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة نعم donc on poursuit بإذن الله عز وجل notre explication de la رسالة du noble Sheikh Al-Uthaymeen Rahimahullah Ta'ala, fondement du tafsir. Donc on est arrivé au chapitre intitulé « La sagesse dans le fait que le Coran se catégorise en muhkam et en mutashabih ». Donc on a vu, alhamdulillah, dans les durus précédents, la signification de ces deux mots qui sont muhkam et mutashabih. Donc j'invite les frères et les sœurs qui n'ont pas pu assister à ces durus, n'ont pas pu les rattraper, qu'ils les rattrapent, bi'idhnillah ta'ala, en allant dans le site de Sentier du Salut, afin d'écouter ces durus, où on donne la signification, la définition de al-muhkam wa al-mutashabih. Donc, dit le Sheikh al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, si le Coran tout entier était muhkam, eh bien, il n'y aurait plus la sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala concernant la mise à l'épreuve, concernant la mise à l'épreuve et l'examen envers l'individu. par rapport au fait que est-ce que la personne va accréditer et va croire yani, à ces versets-là et va mettre en application ce qui est apparent de ces versets et il n'y aurait plus de place pour yani, la déformation ou l'altération. Il n'y aurait pas de possibilité hein, ou de risque pour celui dont le cœur est enclin à la déviation et à l'égarement de s'attacher à des versets qui sont mutashabiha en essayant et en désirant semer le trouble parmi les gens et en désirant une interprétation qui n'est pas conforme à la volonté d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc si tous les versets d'Allah étaient muhkam, il n'y aurait pas cette mise à l'épreuve. Il n'y aurait pas ce test. Et à l'opposé, si le Coran tout entier était mutashabih, eh bien, on perdrait aussi une autre sagesse qui est l'exposé de la guidée, de la guidance d'Allah tabarak wa ta'ala, des règles juridiques et religieuses de l'islam. Donc cet exposé-là, cette démonstration de l'islam aux gens, voyez, serait yani, impossible si tout le Coran était mutashabih, d'un tashabuh qui est spécifique. Donc il ne serait pas possible dans ce cas-là également de mettre en pratique le Coran ou de prendre de ce Coran-là la croyance saine et authentique. Voyez, donc c'est pour ça qu'Allah tabarak wa ta'ala, de par sa sagesse, il a mis dans ce Coran des versets qui sont muhkamat, tayyib, afin qu'on retourne à ces versets-là qui sont muhkamat pour expliquer et détailler les versets qui sont mutashabihat. Et il a mis également donc des versets mutashabihat pour mettre à l'épreuve les créatures, afin que se distingue celui qui a vraiment la foi de celui qui a dans son cœur, hein, une volonté d'égarement et une volonté de déviance. Donc celui qui a vraiment la foi, d'une foi qui est véridique, il sait que le Coran tout entier vient d'Allah tabarak wa ta'ala. Et que tout ce qui vient d'Allah tabarak wa ta'ala n'est que vérité. Et qu'il n'est pas possible que le Coran soit touché par le faux, ni par la contradiction. Et cela en vertu de la parole d'Allah. Tabarak wa ta'ala, surat Fussilat, verset 42, dans le sens rapproché, il dit, il n'est pas touché par le faux, ni par devant, ni par derrière. Mais ce n'est qu'une descente de la part d'un sage et d'un digne de louange. Et la parole d'Allah, tabarak wa ta'ala, surat An-Nisa, verset 82, dans le sens rapproché, et s'il venait d'un autre que Allah, tabarak wa ta'ala, ils y trouveraient certes hein, énormément de divergences et de contradictions. Voyez, quant à celui qui, qu'Allah nous en préserve, a dans le cœur hein, une inclinaison vers l'égarement, vers le mal, il va se servir des versets qui sont mutashabiha afin de déformer yani, les versets qui sont muhkama, afin de les altérer à sa guise, ou plutôt à la guise de ses passions, hein, dans le fait de mettre le doute et la suspicion sur les informations d'Allah tabarak wa ta'ala, hein, et afin d'éloigner les gens des règles légales et religieuses de l'islam. C'est pour cela que tu vois beaucoup parmi les al-munharifin, parmi les égarés, les innovateurs, ceux qui ont dévié de la croyance saine et authentique et des œuvres pieuses, ils se servent de quoi? Eh bien, ils se servent comme excuse et comme argument dans leur déviance de ces versets-là qui sont mutashabihat. Et tu ne verras jamais se servir des versets qui sont muhkamat, car ils savent très bien que cela yani, annule et rend nul leur croyance et leur déviance. ثم قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى موهم التعارض في القرآن. التعارض في القرآن أن تتقابل آيتان بحيث يمنع مدلول أو يمنع مدلول إحداهما مدلول الآخر، مثل أن تكون إحداهما مثبتة للشيء والأخرى نافية فيه. فهذا تعريف، بارك الله فيكم، تعريف التعارض. التعارض أي التقابل، التقابل من كل وجه بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الآخر كما قال الشيخ. وأما إذا كان التقابل من بعض الوجوه فهذا ليس بتعارض، كما يكون بين العام والخاص، فإن العام يدل على شمول ماذا؟ على شمول الحكم للأفراد، والخاص يدل على اختصاصه بأحدها، وهذا في الحقيقة ليس بتعارض. لماذا؟ لأنه ليس تقابل من كل وجه. Puis il dit dans le chapitre juste après, mais on reste malgré ça dans le même domaine. Il dit le Cheikh, rahimahullah ta'ala, muhimu ta'arud fil Qur'an. Donc l'illusion de la contradiction, ou ce qui amène à l'illusion de la contradiction dans le Qur'an al-Karim. Il dit la contradiction, entre guillemets, dans le Qur'an, c'est quoi ? C'est lorsque deux versets yani, s'opposent l'un l'autre, ou se retrouvent face à face l'un l'autre. De sorte à ce que la teneur ou la portée d'un des deux versets empêche la teneur ou la portée du second verset. Par exemple, tu as l'un des deux versets qui va affirmer une chose et le second verset qui va au contraire la nier et l'infirmer. Donc le premier verset va affirmer cette chose-là alors que le second verset va l'infirmer. Il dit le Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, ceci est la définition de ta'arud. La contradiction. Ta'arud, c'est ça. C'est quand tu mets deux versets face à face, l'un de l'autre. Et que ils yani, s'opposent sous tous les aspects, de sorte à ce que la teneur de l'un des deux versets yani, empêche et interdise la teneur du second verset. Taïeb. Donc, quant au fait que l'opposition ou le face-à-face entre deux versets se fait, mais sous certains aspects, pas sous tous les aspects, mais sous certains aspects seulement, cela ne rentre pas dans le terme ta'arud, l'opposition. Comme par exemple, on a des versets qui sont amma, généraux, et des versets qui sont khasa, spécifiques. Donc ce qui est général, ta'yib, il va indiquer la globalité de ce qui est spécifique. Taïeb, et va englober les unités qui composent cette globalité. Naam, encore une fois, ce qui est général va indiquer la globalité du jugement. De quoi ? Des unités qui composent cette généralité. Alors qu'elle khas, le spécifique, lui, il va indiquer la spécificité hein, de l'un ou de l'une de ces unités, ou de l'un de ces éléments. Je répète, Al-Am, ce qui est général, va indiquer la globalité d'un jugement appartenant aux éléments d'une partie. Alors que ce qui est spécifique, il va indiquer la spécificité de l'un de ces éléments. Donc en vérité ici, ce n'est pas une opposition. Ta'arud. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une opposition hein, ou un face-à-face sous tous les aspects. Mais ce n'est que les choses dans les règles concernant yani, ce qui est général et ce qui est spécifique. Donc cela n'est pas concerné ici. المهم ثم قال ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما أو مدلولهما خبري لأنه يلزم كون إحداهما كذبا وهو مستحيل في أخبار الله تعالى قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي كذلك لأن الأخيرة منهما ناسخة للأولى قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها طيب فإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخيرة وإذا رأيت ما يهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهما فإن لم يتبين لك وجب عليك توقف وكل الأمر إلى عالمه وقد ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض وبينوا الجمع في ذلك ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب لشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى فيجي للشيخ العثيمين رحمه الله mais il n'est pas possible en vérité que la contradiction يعني touche deux versets du Coran dont la teneur est une teneur qui est informative khabari pourquoi parce que si on dit qu'il y a une contradiction entre deux versets dont la teneur est une information, eh bien cela amènerait à dire que l'une des deux informations est un mensonge et est fausse. Et cela est impossible. Cela est impossible et inadmissible concernant les informations qui viennent d'Allah. Jalla Jalalo. Il dit Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans le sens rapproché, qui est plus véridique qu'Allah en parole? Qui est plus véridique qu'Allah en parole? Personne. Taïeb. Il n'est pas possible également qu'il y ait une contradiction entre deux versets dont la teneur, elle est juridique, dont la teneur concerne un jugement religieux. Pourquoi ? Parce que le deuxième ou le second verset qui vient avec un jugement, un autre jugement que le premier, eh bien en vérité, il ne vient que pour l'abroger, que pour abroger et annuler le premier. Il dit Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens rapproché sourate al-Baqarah, verset 106, ce que nous abrogeons comme verset ou ce que nous faisons oublier, nous en amenons yani un autre verset meilleur, c'est-à-dire plus bénéfique, un jugement plus bénéfique que le premier ou équivalent. Vous voyez ? Donc lorsque l'abrogation est quelque chose qui a été affirmé, hein, eh bien, le jugement du premier verset ne sera plus en vigueur, taïeb, et il n'est pas en contradiction avec le dernier. Voilà, mu'aridin l'akhira. Il n'est pas en contradiction avec le dernier. Pourquoi ? Parce qu'il n'est plus en vigueur. Il n'est plus en vigueur. Il a été annulé, supprimé. Donc, il n'y a plus de contradiction ou d'opposition. Fahimtum ? Puis il dit, et lorsque tu regardes ce qui, justement, amène à l'illusion de contradiction en cela, il dit, tu devras essayer de réunir, de faire un jama, de réunir entre ces deux versets-là qui te semblent contradictoires. Et si tu n'arrives pas à les réunir, tu dois t'arrêter et confier cette affaire, cette chose-là, cette question-là, à celui qui en a la science. Ça y est. Les savants, rahimahumullah, ont énoncé de nombreux exemples de ce que justement entraîne cette illusion de contradiction. Et ils ont exposé justement comment les réunir en cela. Et il dit le cheikh, parmi les livres qui ont réuni le plus les questions yani, concernant justement les soi-disant ou les soi-disant yani, contradictions dans le Coran al-Karim, le livre du noble cheikh Mohammed al-Amin al-Shinqiti, rahimahullahu ta'ala, intitulé Daf'u Iham al-Ittirabi an Ayy al-Kitab. Je conseille à tous les étudiants en sciences. Daf'u Iham al-Ittirab an Ayy al-Kitab. C'est-à-dire, dans le sens rapproché, le titre, hein, le repoussement de l'illusion de confusion vis-à-vis des versets du livre. Non. فقال الشيخ العثيمين رحمه الله وهل هذا البحث هل هو مهم بالنسبة للقرآن هل هذا مهم قال الشيخ نعم هذا مهم لأن الإنسان يتعود به كيف يجمع بين الآيات ويوقن بأن القرآن ليس فيه تعارض فهو مهم جدا لذلك ينبغي للإنسان أن يطالع مثل هذه الكتب التي فيها الجمع بين الآيات التي ظاهرها التعارض. دي الشيخ رحمه الله est-ce que يعني ce sujet est vraiment important par rapport au Coran? نعم, bien sûr qu'il est important. Car l'individu doit s'habituer comment يعني réunir entre les versets. Comment les lier les uns aux autres. Et jusqu'à ce qu'il ait la certitude que le Coran n'a aucune contradiction. Donc c'est un sujet, mes frères, qui est très important. C'est pour cela qu'il convient à la personne de lire ce genre de livre. Hein, celui que l'on a cité de Cheikh Shinqiti, rahimahullah ta'ala, qui contient justement ces versets-là dont l'apparence yani, contiendrait une contradiction. Mais ce n'est qu'une illusion, comme nous l'avons maintes fois répété. ثم قال فمن أمثلة ذلك قوله تعالى في القرآن هدى للمتقين وقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمتقين وفي الثانية عامة للناس والجمع بينهما أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع والهداية في الثانية هداية التبيان والإرشاد. طيب. Donc parmi les exemples de ces versets-là, qui en apparence semblent contradictoires, la parole d'Allah tabarak wa ta'ala dans la surat al-Baqarah, Allah dit « Hudan lil muttaqin » une guidance pour les pieux. Mais dans un autre verset de la surat al-Baqarah, également, verset 185, il dit Allah le mot de Ramadan dans lequel le Coran a été descendu en guise de guidance pour les gens. Donc ici, il semble qu'il y ait une contradiction. Dans le premier, Allah a dit une guidance pour les pieux. Et dans le second verset, Allah a dit une guidance pour les gens. D'accord? Dans le premier, donc, c'est une guidance qui est spécifique aux pieux. Alors que dans le second, c'est une guidance qui est globale et englobe les gens de manière générale. Donc comment on va lier ces deux versets-là? Comment on va les réunir? Taïeb, eh bien tout simplement, on sait que Allah tabaraka wa ta'ala Yani, lorsqu'il mentionne al-hidayah, la guidance, hein, ou la guider, ça sera soit une guidance qu'on appelle hidayat al-tawfiq de réussite, d'application, de profit et de bénéfice, d'acceptation, soit une guidance qui est au contraire une guidance de tibyan, de démonstration, d'exposé, d'indication et d'orientation. Donc, on comprend par là que dans le premier verset de la sourate Al-Baqarah, verset numéro 2, Allah il dit une guidance pour les pieux, c'est-à-dire une guidance de tawfiq ou l'intifa, une guidance de réussite, de succès, de mise en pratique, d'acceptation, de profit. Alors que dans le second verset, c'est plutôt une guidance d'indication, d'orientation et d'exposé. C'est pour cela qu'Allah a généralisé cette guidance-là à tous les gens. Car Allah il a envoyé hein, des prophètes à tous les peuples. Bihamdillah Azza wa Jal. طيب نعم ونظير هاتين الآيتين نظير هاتين الآيتين قوله تعالى في الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وقوله فيه وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم فالأولى هداية التوفيق والثانية هداية التبيين. Et dans le même sujet, justement, de la guidance, on a les deux autres versets concernant cette fois le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabarak wa ta'ala dit dans Sourate Al-Qasas, de le sens rapproché, certes, tu ne guides pas ceux que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Et le second verset de la Sourate Ash-Shura, verset 52, Allah il dit, certes, tu guides vers un droit chemin. Donc ici, dans le premier, on a Allah il dit, certes, tu ne guides pas. Et dans le second, Allah il dit, certes, tu guides. Conclusion, il faut réunir les deux versets. Et en les réunissant, en réunissant tous les textes coraniques et les textes prophétiques, on sait très bien qu'il y a deux formes de hidayah, deux formes de guidance. Une guidance qui est de tawfiq, de réussite, de succès, d'acceptation. Et une guidance tabyin, de démonstration, d'indication et d'exposé. Voyez? Donc, dans le premier verset, quand Allah dit « Certes, tu ne guides pas ce que tu aimes ou celui que tu aimes hein, », Allah parle ici d'une guidance de réussite, d'acceptation. Une guidance qui va faire que la personne va accepter de croire, de mettre en pratique, de dire, de faire. Cette guidance-là appartient à Allah et à Allah seul. Et puis on a la guidance hein, qui est d'indiquer, d'exposer, de montrer, d'orienter. Ça, c'est une guidance qui appartient aussi aux créatures. Et c'est celle dont Allah parle dans la Surah Ash-Shura. Certes, tu guides vers un chemin droit. طيب. ففي قوله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت. قال الشيخ رحمه الله أين عائد من إنك لا تهدي من أحببته ووجه آخر تقديره من أحببت هدايته. فهذان قولان فأيهما الأصح؟ إن نظرنا إلى أن الأصل عدم التقدير قلنا الأصح الأول أي من أحببته وإن ورد علينا إشكال وقال هذا يفضي إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أو يحب أبا طالب ولا نتخلص من هذا الإيراد إلا إذا قلنا إن التقدير من أحببت هداية فأيهما ترجحون؟ Ici on va s'arrêter un instant sur la parole d'Allah Tabarak wa Ta'ala de la sourate Al-Qasas, dans le sens rapproché. Certes, tu ne guides pas celui que tu aimes. Taïb. Mais c'est Allah qui guide qui il veut. Donc ici, le men, hein, il y a un qui. Tu ne guides pas qui tu aimes ou qui tu voudrais. Le men renvoie à qui ici? Est-ce que ça renvoie à un sens qui serait tu ne guides pas celui que tu aimerais, ou que tu aimes, plutôt celui que tu aimes? Ou alors est-ce que ce qui est plutôt implicite et sous-entendu dans cette phrase, ce verset, c'est tu ne guides pas celui que tu aimes sa guider, ou celui dont tu aimes la guider? Vous voyez la nuance entre les deux. Le premier, on va dire la première interprétation serait tu ne guides pas celui que tu aimes, la personne que tu aimes. Alors que dans la seconde interprétation serait quelque chose qui est ici sous-entendu, contrairement au premier tafsir, qui est tu ne guides pas celui dont tu aimes la guidance. Celui dont tu aimes sa guidance. Donc le premier renvoie à la personne et le second renvoie à la guider ou à la guidance, al-hidayah. Donc on a deux paroles ici, deux avis. Lequel des deux est le plus juste? Il dit le cheikh, lorsqu'on regarde, et on est la base. La base, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de sous-entendu. On prend une parole en arabe, la base, c'est qu'il n'y a pas de sous-entendu, sauf s'il y a un indice ou quelque chose qui nous montre qu'il y a quelque chose qui est sous-entendu. Donc on dira dans ce cas-là que le premier avis est le plus juste. C'est-à-dire, tu ne guides pas celui que tu aimes. Mais si cela nous pose un souci, eh bien, c'est là qu'on ira vers le deuxième avis. Un souci serait, par exemple, de se dire que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne peut pas aimer son oncle Abu Talib. Car il est mort sur le kufr. Car il est mort sur le kufr. Donc il ne peut aimer un kafir. Voyez? Et si donc on n'arrive pas à accepter cela, et on n'arrive pas à comprendre et à assimiler et à admettre cette volonté-là du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ou cet amour-là du prophète pour son oncle Abu Talib, eh bien on dira dans ce cas-là, ce qui est sous-entendu, c'est quoi? C'est tu ne guides pas celui dont tu aimes, dont tu aimerais la guider. Donc c'est pas la personne dont il est question qui, c'est pas la personne qui est aimée ici, mais c'est la guider de cette personne-là qui est aimée du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lequel des deux avis vous allez, vers lequel vous allez pencher le plus ici? Eh bien, le cheikh va nous répondre, inshallah. Qala le cheikh. هل يلام إنسان على محبة شخص أحسن إليه؟ محبة إحسان لا محبة دين. هل يلام؟ لا، لا يلام. من أحسن إليك فإنك تحبه لإحسانه لا لدينه. والظاهر لي أنا أي للشيخ أن الأصل عدم الحذف، وأن التقدير من أحببته. ولكن حب الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي طالب ليس حب دين ولكنه حب قرابة وإحسان لأن الرجل أحسن إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام إحسانا عظيما ودافع عنه مدافعة عظيمة. طيب المهم لا تهدي نفي وإثبات النفي في قوله لا تهدي والإثبات في قوله وإنك لا تهدي ومؤكد بإن واللام، فما الجمع؟ نقول الجمع الأولى إنك لا تهدي من أحببت هداية التوفيق، والثانية لتهدي إلى صراط مستقيم هداية الدلالة، ولهذا تعدى بإلى أي لتدل إلى. Donc il répond le cheikh, rahimahullah ta'ala, écoutez bien. Est-ce que l'être humain est condamnable, est blâmé par rapport à son amour pour une personne qui a été bienfaisante envers lui? Est-ce qu'il est blâmé vraiment? Est-ce qu'on va le blâmer pour un amour pour une personne qui a été bienfaisante envers lui, d'un amour de bienfaisance, pas d'un amour religieux? C'est pas un amour religieux. Il dit le cheikh, là, Yulad, il n'est pas blâmé. Celui qui a été bon envers toi, celui qui t'a aidé, qui a fait preuve de bienfaisance envers toi, eh bien tu vas l'aimer par rapport à sa bienfaisance, pas par rapport à sa religion ou à son kufr. Donc il dit le cheikh, ce qui est apparent pour moi, pour le cheikh, c'est que la base en plus, c'est que la phrase, comme on a dit, n'a pas de sous-entendu, n'a pas de chose qui a été qui est implicite, qui n'est pas dite, mais qui serait implicite. Là-bas, c'est qu'il n'y a pas d'implicite. C'est qu'il y a tout ce qu'il y a à savoir est dans la phrase. Donc il n'y a pas de sous-entendu. Hein? Donc ici, l'explication de ce verset-là serait donc, yani, tu ne guides pas celui que tu aimes. C'est-à-dire en parlant d'Abu Talib. En parlant d'Abu Talib. Mais donc l'amour du messager, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, pour Abu Talib n'est pas un amour religieux. Mais c'est un amour déjà de proximité. Car c'était son oncle. Déjà premièrement, c'était son oncle paternel. Et d'un amour de bienfaisance, car il a été bienfaisant envers lui. Jayid. Et parce que Abu Talib a fait preuve de bienfaisance en faveur du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, d'une grande bienfaisance. Et il a défendu, il a préservé, il a protégé d'une protection yani, immense. Donc, l'essentiel ici, la parole d'Allah, tabarak wa ta'ala, la tahdi. Tu ne guides pas, c'est quoi? C'est une négation. Hada nafi. Négation. Et l'affirmation, hein, l'affirmation de cette négation, elle est dans sa parole, donc la tahdi. Tu ne guides pas. Et l'affirmation, plutôt, de la guidance, elle est dans la parole, ou innaka la tahdi. Certes, tu guides. Donc, dans le premier, on a une négation. Dans le second, nous avons une affirmation. Et en plus, qui est appuyée dans le second, elle est appuyée par inna, d'accord, qui est un élément qui vient renforcer le propos. Et on a le lam aussi, devant l'interdit. L'interdit qui vient affirmer et appuyer le propos. Donc, comment on fait pour réunir les deux, ces deux versets-là? Nous disons que dans le premier verset, où Allah Jalla wa'ala, il infirme la guidance pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est certes, tu ne guides pas celui que tu aimes, il est question ici d'une guidance de tawfiq, de réussite, de pratique, d'acceptation. Alors que dans le second, wallah, il nie et infirme la guidance en disant, ou plutôt afwan, wallah, il affirme la guidance pour le prophète en disant, la tahdi, tu guides certes vers un chemin droit. C'est une guidance de dalala, d'orientation, d'indication. C'est pour cela, ici, en plus, vous remarquerez que le verbe hada est accompagné de ila, de harf ila. Hein? Tu guides vers ila, sirat mustaqim. D'accord? C'est-à-dire, tu guides, hein? Ou afin que tu indiques où est le chemin, ou le droit chemin. Où est le sirat mustaqim? Donc on comprend par là, la question est encore plus claire, grâce au harf ila. On comprend par là que la guidance ici, l'hidaya, est une guidance d'orientation, d'indication. Hein? Afin que c'est-à-dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, bien sûr, qu'il est capable de montrer où est le droit chemin, où est la vérité, où est-ce qu'il faut aller et vers où hein, on doit se diriger. Il n'y a pas de doute que le prophète alayhi salatu wassalam, est capable de faire cela. Mais est-ce qu'il est capable de retourner les cœurs des gens et de faire rentrer la guidance dans le cœur afin que les gens ils acceptent par leur cœur et leur esprit hein? Il est évident que le prophète n'est pas capable de faire cela. Wa min amthilati dhalika qawluhu ta'ala شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وقوله وما من إله إلا الله وقوله فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وقال جل وعلا فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب في الآيتين الأوليين نفي الألوهية عما سوى الله تعالى وفي الأخريين إثبات الألوهية لغيره سبحانه وتعالى والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية الحق وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة لقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Autre exemple maintenant. On a la parole d'Allah sourate Ali Imran. Le sens abouché Allah dit Allah a attesté qu'il n'y a nulle divinité méritant l'adoration sauf lui, ainsi que les anges, yani ont témoigné, ainsi que les détenteurs du savoir. On a aussi la parole d'Allah de la sourate pareil, Ali Imran, Allah dit "Wa ma min ilahin illa Allah", aucune divinité méritant l'adoration sauf Allah. Et puis on a la parole d'Allah également dans la sourate Ash-Shu'ara, où Allah dit "Et n'invoque avec Allah aucune autre divinité, car sinon tu serais parmi hein, ceux que l'on châtie." Et dans un autre verset encore, sourate Hud, Allah dit فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ, et leur divinité ne leur a servi à rien. Ces divinités qu'ils invoquent en dehors d'Allah, lorsque viendra l'ordre de ton Seigneur, et ils ne font que augmenter, yani à ces gens-là, la perte ou la destruction. Donc, dans les deux premiers versets de la sourate Ali Imran, Allah Jalla wa Ala, il infirme, qu'est-ce qu'il infirme? Il infirme le caractère divin à toute chose, sauf pour Allah Tabarak wa Ta'ala. Alors que dans le verset 3 et 4 de la sourate Ash-Shu'ara et Hud, Allah Tabarak wa Ta'ala, il affirme au contraire le caractère divin pour autre que Allah tabarak wa ta'ala. Comment fait-on pour réunir les deux, les frères? Ou plutôt tous ces versets-là? Eh bien, al-uluhiyya, le caractère divin spécifique à Allah tabarak wa ta'ala, est la véritable divinité. Lorsqu'Allah tabarak wa ta'ala, il infirme le caractère divin pour les créatures, il affirme que pour Allah tabarak wa ta'ala, il parle ici de laquelle? Il parle de la divinité véritable. La vraie divinité. Alors que lorsque il va l'affirmer pour autre que Allah tabarak wa ta'ala, comme lorsqu'il dit et n'invoque avec Allah aucune autre divinité, donc Allah il les a appelés comment? Il les a appelés ilah. Ilah. Eh bien, sachez que dans ce cas-là, Allah Jalla wa Ala fait allusion à la fausse divinité, au faux caractère divin. En vertu de la parole d'Allah Tabarak wa Ta'ala, de la sourate Al-Hajj, ceci car Allah Jalla wa Ala est la vérité. Et ce qu'ils invoquent en dehors de lui est faux, est le faux. Et qu'Allah Jalla wa Ala, c'est le très haut et le très grand. طيب، ثم ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وقوله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ففي الآية الأولى نفى أن يأمر الله تعالى بالفحشاء، وظاهر الثانية أن الله تعالى يأمر بما هو فسق، والجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي، والله تعالى لا يأمر شرعا بالفحشاء لقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والأمر في الآية الثانية هو الأمر الكوني، والله تعالى يأمر كونا بما شاء حسب ما تقتضيه حكمته لقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن رام زيادة أمثلة فليرجع إلى كتاب الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى المشار إليه آنفا. Et pour finir, inshallah ta'ala, un dernier exemple. La parole d'Allah Jalla wa'ala de la sourate Al-A'raf, le sens rapproché Allah, il dit, certes Allah n'ordonne pas la turpitude, al-fahsha, la débauche, la turpitude, les actes honteux. Et dans la sourate Al-Isra, Allah il dit, et si nous voulons faire périr une cité, nous ordonnons à leurs gens, yani, opulents de cette cité-là, et ils font preuve de perversité et de débauche. Et donc, la parole s'est avérée contre elle et nous l'avons détruite, yani, d'une grande destruction. Dans le premier verset, Allah tabarak wa ta'ala, il infirme le fait qu'Allah jalla wa ala a ordonné la turpitude. Allah n'ordonne jamais la turpitude, wa liya'adhu billah. Voyez ? Mais ce qui est apparent du second verset, c'est qu'Allah tabarak wa ta'ala a ordonné une chose qui serait de la désobéissance ou de la turpitude. Qu'Allah yani, soit éloigné de cela. Donc comment on va réunir ces deux versets-là ? Eh bien, tout simplement, dans le premier verset, l'amru, le commandement, ou l'ordonnance qui est dans le premier verset, c'est un commandement qui est religieux. Allah ne commande pas la turpitude, n'ordonne pas la turpitude religieusement. D'accord ? Allah Azza wa Jalla, la surat al-Nahl, qu'est-ce qu'il dit ? Certes, Allah ordonne l'équité, la bienfaisance, les donations pour les proches, et il interdit la turpitude, le blâmable, l'injustice. Il vous exhorte afin que vous vous rappeliez, ou peut-être vous rappellerez-vous. Donc, dans le second verset, l'ordonnance de la part d'Allah tabarak wa ta'ala est une ordonnance qui est kauni, qui est existentielle. C'est le fait qui est lié au décret et à la prédestination d'Allah tabarak wa ta'ala. Cela ne veut pas dire qu'Allah aime cette chose-là. Ça ne veut pas dire qu'Allah jalla wa ala a ordonné aux gens de faire ces mauvaises actions. Voyez ? Donc Allah tabarak wa ta'ala, lui, ses ordres, ses commandements sont de deux types. On a des commandements qui sont religieux et des commandements qui sont existentiels, universels, liés au décret. Et Allah, il décrète ce qu'il veut conformément à sa sagesse. Hein? Il dit Allah jalla wa ala, certes, son affaire consiste, lorsqu'il veut une chose, à ce qu'il dise soit et la chose est. Donc celui qui désire, il dit les chers, plus d'exemples yani, concernant cette question-là, hein, des soi-disant contradictions qui existeraient dans le Coran entre certains versets, qu'il retourne dans le livre de Cheikh Shinqaiti, rahimahullah ta'ala, que l'on a cité yani, juste avant. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.